au congrès virtuel de 2014. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir. Et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Nous sommes ensemble ce soir pour une conférence intitulée « Transformer la culpabilité, du poison à la liberté ». La culpabilité, nous la ressentons tous à un moment ou un autre. Et ce sentiment pénible mérite qu'on s'y attarde, car il a une grande influence sur nos vies. Réfléchissez un instant, si ce sentiment disparaissait complètement de votre vie, combien d'actions déclenchées par ce sentiment posez-vous? Qu'est-ce que vous aimeriez faire et que vous ne faites pas à cause de la culpabilité? La culpabilité implique une notion de faute, et qui dit faute dit souvent punition. Et certaines personnes se sentent coupables, même de fautes imaginaires, et s'infligent des punitions terribles qui peuvent aller jusqu'à l'automutilation. Comment se sortir d'une culpabilité excessive? La culpabilisation est aussi une arme redoutable utilisée par les manipulateurs. Comment peut-on la comprendre et ne plus donner prise à ces manipulateurs? Notre conférencière a étudié la question et a découvert comment utiliser l'EFT d'une manière très efficace en alliance avec d'autres approches. Depuis 10 ans, elle accompagne les personnes qui souffrent de culpabilité excessive et les aide à lutter contre ce poison. À la fois thérapeute manuelle formée à l'ostéopathie, titulaire d'un master en coaching, praticienne EFT, elle enseigne l'EFT dans son centre de formation et elle exerce et enseigne aujourd'hui à Paris et à Montauban et met tous ses talents au service du plus grand nombre. Elle va nous indiquer comment mettre l'EFT à notre service pour s'affranchir des culpabilités. Et si vous, vous avez des difficultés avec la culpabilité, laissez-vous guider et laissez-vous donner quelques clés. J'ai le plaisir d'accueillir ma collègue et co-créatrice de cette merveilleuse aventure, qu'est le congrès virtuel d'EFT, Noël Cassin.
Bonsoir Maria.
Bonsoir Noël.
Je suis ravie d'être là pour présenter cette conférence sur la culpabilité.
Ok. Alors pourquoi justement une conférence sur la culpabilité, Noël?
Écoute Maria, j'ai reçu bon nombre de clients qui étaient en prise avec cette émotion. Et après avoir eu des résultats plus ou moins satisfaisants, j'ai découvert un livre. Et ce livre s'appelle « Au diable la culpabilité ». Il est d'Yves Alexandre Talman. Et il m'a fortement éclairé sur le fonctionnement de la culpabilité. Après avoir vu de véritables changements sur ma propre culpabilité, j'ai pu changer ma pratique EFT dans mon cabinet et depuis mes clients progressent bien plus rapidement. Alors je vais commencer par un rappel pour certains et une découverte pour d'autres. C'est la différence entre une émotion et un sentiment. Et tu verras Maria, cette différence va nous aider et va nous éclairer sur le sentiment de culpabilité. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une émotion? Définir ce qu'est une émotion n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Et d'ailleurs, tous les auteurs ne sont pas complètement d'accord. Aussi, je vais faire assez simple. Je vais donner la définition de Wikipédia. Une émotion est une réaction psychologique et physique à une situation. Elle a d'abord une manifestation interne et génère une réaction extérieure. Elle est provoquée par la confrontation à une situation et à l'interprétation de la réalité. Fin de citation de Wikipédia. Donc, pour résumer, peut-être pour expliquer mieux, la perception de ces manifestations internes, c'est-à-dire les manifestations qu'on a dans le corps, constitue la base du ressenti. La modification corporelle et l'interprétation psychologique nous permet d'avoir l'expérience des émotions. Ce processus physique est complexe et demande à notre organisme beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que ce processus ne dure qu'une dizaine de minutes maximum. L'émotion ne dure pas longtemps, 10 minutes, et le ressenti disparaît. Donc l'émotion, c'est vraiment une perception passagère.
Mais souvent, il y a un ressenti bien plus long que 10 minutes.
Et c'est là que nous parlons de sentiment. Il est défini comme un état affectif complexe qui persiste en l'absence de tout stimulus. Le sentiment nécessite une véritable élaboration mentale et c'est avec le mental que nous pouvons maintenir ce sentiment dans le temps. Le sentiment se construit principalement dans la tête.
D'accord, c'est une distinction importante effectivement entre l'émotion et le sentiment. Et la culpabilité donc, est-ce qu'elle est plutôt émotion ou plutôt sentiment ?
Alors en ce qui concerne la culpabilité, cette distinction est intéressante car si c'est une émotion, il suffirait d'attendre 10 minutes pour la voir disparaître. Par contre, si c'est un sentiment, elle va pouvoir se prolonger des semaines, voire des années.
Alors, j'en conclus que ça ne doit pas être seulement une émotion, parce que j'ai vu des culpabilités qui durent bien plus que 10 minutes.
Tout à fait. Et la culpabilité se décline autant sur le monde émotionnel que sur le monde sentiment. En fait, il existe les deux façons de ressentir la culpabilité. On peut ressentir une vague de culpabilité avec les symptômes caractéristiques d'une émotion. C'est-à-dire, ça peut être des rougeurs, de la tachycardie, le cœur qui s'emballe, mais elle peut être également vécue avec un sentiment de fond, comme un arrière-fond qui est quasi permanent, qui est toujours présent. Comme je l'ai abordé lors de ma conférence sur les peurs pendant le congrès de l'année dernière, l'EFT n'est pas là pour faire disparaître une émotion ou un sentiment, ni pour faire en sorte de ne plus les ressentir. Une émotion est-elle un messager, et ce message, nous avons à le comprendre, sinon le messager se présente souvent à la porte.
Et il a tendance à frapper de plus en plus fort d'ailleurs.
C'est tout à fait ça. La culpabilité peut être vécue sur le monde émotionnel, comme une vague qui ne dure pas, avec, en même temps, une culpabilité sentimentale sous-jacente. Nous n'avons pas toujours conscience de nos sentiments à chaque instant. Ils peuvent être présents sans que nous en rendions compte. Un sentiment durable de culpabilité peut être présent en dehors de notre conscience et n'apparaître qu'à certaines occasions, sous des apparences diverses, une forme intense sur le plan corporel, soit d'une manière plus lancinante. Et c'est pourquoi certaines personnes peuvent ressentir en toile de fond, ou tu vois comme un papier peint dans une pièce, un véritable sentiment de culpabilité. La culpabilité peut s'entretenir elle-même et réapparaître à la moindre occasion.
Et parfois, il semblerait que la culpabilité arrive presque sans cause précise.
Alors, ressentir la culpabilité, comme les autres émotions, nécessite des conditions précises pour qu'elle apparaisse. On sait aujourd'hui que les émotions ne sont pas des réactions déterminées à des situations spécifiques, à des situations précises. On ne peut pas faire la liste de situations qui auraient une émotion associée. Ce qui culpabilise certaines personnes peut laisser indifférent une autre personne complètement.
Oui, comme la plupart des émotions, toutes, je pense, ce n'est pas la situation qui détermine l'émotion, mais l'interprétation que nous en avons.
Exactement. Et le déclencheur n'est pas la cause. Ça, c'est vraiment une notion importante à saisir. Le déclencheur n'est pas la cause. Nos émotions dépendent de nos évaluations et de nos interprétations personnelles. La cause de l'émotion est à rechercher à l'intérieur de soi, puisqu'elle dépend de notre interprétation. Alors que le déclencheur est très souvent à l'extérieur, c'est quelque chose qui arrive. Le déclencheur, c'est l'événement qui arrive. La cause est notre façon de donner un sens à cet événement qui est en relation avec nos besoins. Comme je l'explique régulièrement dans mes cours et mes formations, ce sont nos pensées qui déclenchent et déterminent nos émotions. Et chaque type d'interprétation, chaque type de pensée donne lieu à une émotion particulière. La tristesse, par exemple, signale une perte. La peur signale un danger. La colère indique une injustice. Mais ce qui représente une perte, une injustice ou un danger est à la libre interprétation de chacun.
Et quelle serait donc l'origine de la culpabilité en tant qu'émotion ?
Alors, pour la culpabilité, le mot-clé est la faute. Pour éprouver de la culpabilité, il faut concevoir la notion de faute. Un enfant est capable, en moyenne, vers 1 an et demi, 2 ans. Dans le petit Larousse, la culpabilité, on peut dire que c'est l'état de quelqu'un qui est coupable d'une infraction ou d'une faute. Le sentiment de faute ressenti par un sujet, que celle-ci soit réelle ou imaginaire. Et fin de citation. C'est donc la personne qui se juge coupable. Et là, nous avons deux sortes de fautes. Il y a une objective qui renvoie à des règles établies et une qui est dite subjective qui n'est pas une faute en soi, mais une règle personnelle.
Je crois que cette notion de règle objective ou subjective est un peu floue. Est-ce que tu peux développer en quelques mots?
Pour faire court, disons que les règles consignées dans des livres, comme les lois, ou les règles qui sont transmises oralement de génération en génération, sont plutôt de nature objective. Elles sont partagées par tout un groupe et ont normalement pour but de garantir le plus grand bien de tous. Par exemple, je pourrais dire que le code de la route, c'est vraiment des règles objectives. Un exemple de règle subjective, c'est par exemple, j'ai pour règle de rendre visite à mon père qui est en maison de retraite tous les week-ends. Ou le célèbre repas de Noël qui doit se passer absolument en famille. Là où ça se complique, ça ce sont les règles subjectives. Elles sont propres à chacun. Là où ça se complique un peu, c'est quand la règle n'est partagée que par une partie de la communauté. Alors je m'explique. La personne n'est alors en faute qu'aux yeux d'une partie de la population. Prenons par exemple l'interruption volontaire de grossesse. Si la législation en vigueur l'autorise, mais que les principes religieux l'interdisent, alors, Maria, la femme qui avorte, commet-elle une faute ou pas?
Je laisse la question ouverte.
La personne peut alors se sentir coupable, alors qu'elle ne commet pas une infraction selon la loi. L'inverse est possible. Dans de nombreux pays, il est interdit de par la loi de frapper les enfants. Or, certains parents ont encore un recours à quelques gifles ou châtiments corporels. Alors, ils sont fautifs aux yeux de la loi, alors qu'ils ne se sentent absolument pas coupables. Est-ce que je commets une faute ou pas? La réponse n'est pas si simple, et chacun a sa réponse personnelle. Et c'est justement cette dimension d'objectivité et de subjectivité qui permet à la culpabilité de se répandre dans l'esprit de certaines personnes. Et c'est cette subjectivité qui est la cause de la culpabilité que peuvent ressentir certains survivants de catastrophes. Se sentir coupable d'être encore en vie alors que d'autres sont morts, comme dans le cas du typhon aux Philippines, et ça c'est vraiment une culpabilité qui est terrible.
Oui, effectivement, nous ne sommes pas tous égaux devant la culpabilité. Je peux remarquer dans mes séances avec les personnes que j'accompagne que certaines personnes ressentent de la culpabilité à très haute dose.
Et c'est cette culpabilité. La culpabilité, quand c'est exagéré, on parle de culpabilité morbide. Si vous comprenez ce que je vais dire maintenant, alors vous allez avoir une sacrée clé pour comprendre votre propre sentiment de culpabilité. Il ne suffit pas de transgresser une règle pour se sentir coupable. Il faut avoir intériorisé cette règle et l'avoir acceptée, qu'elle soit partagée par tous ou non. Il faut également avoir conscience de ses propres actions. Il suffit qu'une seule règle intérieure soit bafouée pour que la culpabilité apparaisse.
Mais alors, quand on sait que les émotions désagréables indiquent en général qu'un besoin n'est pas satisfait, à quel besoin non satisfait pourrait faire référence la culpabilité?
La culpabilité, elle apparaît quand nous avons ou que nous allons commettre une faute et que cette faute cause un préjudice à autrui. Et commettre cette faute risque de nous faire exclure de la communauté. Cette mise à l'écart, le rejet donc, en seront les conséquences. Notre besoin d'appartenance et notre besoin d'amour seront de ce fait mis en péril. Par exemple, un enfant qui vole le jouet d'un camarade, même si personne ne l'a vu, il se sent coupable. Il est conscient d'avoir causé un préjudice à son copain, à condition qu'on le lui apprenne bien sûr. Si ce dernier s'en rend compte, il ne voudra plus jouer avec lui. Et il est même possible qu'il soit rejeté de tout un groupe. Le besoin d'appartenance se trouve réellement menacé. Et c'est là que la culpabilité allume un voyant sur le tableau de bord de la conscience. Attention, danger. Les besoins d'appartenance et d'amour sont menacés. Les autres aussi peuvent être menacés, comme le besoin d'estime de soi, le besoin de sécurité, le besoin d'honnêteté, le besoin de communication, le besoin de soutien.
Alors, après avoir commis une faute, la culpabilité est là, d'accord, c'est sa fonction. Et comment peut-on apaiser ce sentiment?
Alors, lorsqu'on a commis une faute, nous sommes appelés à réparer et à dédommager la victime. C'est vraiment un sentiment qui nous pousse à la réparation. On commet une faute, on se sent coupable, et là, pour libérer cette culpabilité, on a vraiment envie de réparer ou de dédommager la victime. C'est vraiment un sentiment qui nous pousse à ça, réparer. Mais réparer la faute, ce n'est pas toujours possible pour diverses raisons. Dans ce cas, il nous reste encore une chose possible à faire, c'est-à-dire présenter ses excuses. Des excuses sincères témoignent de la conscience d'avoir mal agi et d'avoir occasionné des souffrances. Avec des regrets, le coupable assume la responsabilité de ses actes. Et la victime peut alors, si elle veut et si elle peut, accorder son pardon. Et là, on pourrait parler du pardon pendant plusieurs heures, mais je vais juste dire qu'avec le pardon, c'est comme si les torts et les souffrances endurées étaient renvoyés dans le passé. Quand on pardonne, on tourne la page et on passe à autre chose. C'est comme si on décide de ne plus donner d'importance à la faute. Et si on rencontre des difficultés à ne plus donner d'importance à la faute commise, alors, si tu seras d'accord avec moi, Maria, on peut utiliser le lâcheté.
Bien sûr.
La culpabilité nous pousse à ne pas commettre la faute. C'est en ça qu'elle est préventive. Et quand celle-ci est commise, alors la culpabilité nous pousse à réparer cette faute. C'est l'aspect préventif qui est bien souvent efficace, car l'anticipation de cette émotion pénible, vraiment, ça nous dissuade de faire certaines choses qui pourraient, de ne pas faire certaines choses qui pourraient la faire naître et apparaître. Donc, en résumé, la culpabilité nous incite à nous conformer aux usages qui sont en vigueur. La culpabilité est clairement une émotion qui sert à la cohésion sociale. Elle est une action préventive. Et quand la faute est commise, on va être poussé à réparer et ou à présenter des excuses. Si je vois des livres que je dois rendre dans ma bibliothèque, je peux tous les jours, pendant des semaines, ressentir une culpabilité chaque fois que je vais voir ces livres. Parce que, par exemple, mon besoin d'honnêteté peut être mis en cause. Il suffit que je répare, c'est-à-dire que je rende des livres, et la culpabilité va disparaître. Et voilà, nous venons de voir le mécanisme sain et utile de la culpabilité, mais c'est pas toujours aussi simple.
Déjà, c'est une belle découverte, parce que c'est vrai que je n'avais pas forcément pensé que la culpabilité pouvait être une bonne chose. Mais j'ai quand même l'impression qu'effectivement, parfois, elle peut se dérégler et devenir carrément envahissante.
Oui, tout à fait, Maria. La culpabilité peut être envahissante. Et quand elle est très envahissante, comme ça, on dit que c'est une culpabilité morbide. Cette forme de culpabilité consiste à se sentir fautif pour tout et n'importe quoi. Aucune faute n'est commise. Aucun préjudice n'est causé, et pourtant, la culpabilité s'invite à la fête. Alors, je vais te donner des exemples, Maria, comme ça sera plus clair. Un week-end, je décide, non sans mal, bien sûr, à ne pas aller voir mon père dans sa maison de retraite. Mais là, j'ai vraiment très 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 envie de partir, 2 jours à la mer, avec mes amis qui m'ont invité, et je me sens terriblement coupable. On peut également se sentir coupable d'avoir réussi mieux que son père, ou mieux que son frère, ou mieux que sa mère, se sentir coupable de l'échec de ses élèves quand on est prof, de ses clients quand on est coach, ou de ses enfants quand on est parent. Les enfants peuvent se sentir coupables du divorce de leurs parents, du père qui a perdu un emploi. Ils peuvent se sentir coupables de la mort du chat qui pourtant est mort de vieillesse. Et la liste comme ça peut être très longue. Et ce type de culpabilité peut devenir une sorte de climat affectif. Tous les prétextes sont bons, ne pas être parfait, ne pas pouvoir sauver le monde, être heureux alors que c'est la crise, et ici vraiment la faute est purement subjective. Comme je le disais il y a quelques instants, ressentir de la culpabilité est justifié quand un préjudice a effectivement été causé, c'est sain et utile, autant la culpabilité sans faute commise est pathologique et strictement inutile. Cette culpabilité à répétition, sans motif objectif, c'est celle-là qu'on va chercher à libérer. La culpabilité saine a vraiment une fonction protectrice, on vient de le voir, j'espère que j'étais assez claire avec ça. La culpabilité saine a vraiment une fonction protectrice et il vaut mieux ne pas y toucher. Yves-Alexandre Tellemann, dans son livre, s'est libéré de sa propre culpabilité en un instant et il a soudain pris conscience que derrière le sentiment de culpabilité se cachait, écoute-moi bien Maria, derrière le sentiment de culpabilité se cachait le sentiment de toute puissance. Alors, dit comme ça, c'est étonnant.
Ben oui, c'est étonnant. Effectivement, la culpabilité, on associe plutôt ça à un état de victime et pas forcément à un personnage tout puissant.
Ouais. Alors, voilà ce qu'il a découvert, Maria. Alors qu'il s'occupait de sa mère, et malgré tous ses efforts, celle-ci allait de plus en plus mal. Effectivement, Maria, il avait une position de victime, en tout cas dans sa tête. Et la dépression n'était pas si loin. Puis, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez de ressources pour sauver l'humanité, ni même pour sauver deux personnes. Parfois, ça, on le sait avec sa tête, mais on ne le ressent pas vraiment dans son corps. Juste, il s'est aperçu qu'il avait juste de quoi en sauver une dans le meilleur des cas. Et il a décidé que cette personne, ce serait lui, quitte à laisser sombrer sa mère. Il a pris ce risque. Il a alors pris conscience qu'il avait le choix, soit de faire quelque chose pour s'aider lui-même, soit se laisser aller complètement dans cette dépression. Et cette décision lui appartenait entièrement. Et si son propre sort était entre ses mains, il se rendait à l'évidence qu'il en était de même pour sa mère. Cette découverte a fait basculer la situation. Si sa mère en allait pas bien, ce n'était pas parce qu'il ne lui rendait pas visite plus souvent, mais parce qu'elle ne faisait pas suffisamment pour aller mieux. Il n'avait pas le pouvoir de la sauver. Il n'était par conséquent plus responsable de son état. Il n'était plus responsable d'elle. Et donc, il ne se sentait plus coupable non plus. À partir de ce moment-là, il était convaincu que sa présence pouvait l'aider, mais qu'elle seule, que sa mère seule, pouvait se sortir de l'état dans lequel elle se trouvait. Alors il restait de l'amour pour sa mère, mais plus aucune culpabilité. Il pouvait l'aimer et surtout la laisser libre et respecter les choix que sa mère posait. Le sentiment de culpabilité vient du pouvoir que l'on croit avoir sur les autres. Culpabiliser quelqu'un, c'est le rendre responsable. Donc, celui qui se culpabilise se rend responsable de quelque chose. Se rendre responsable implique forcément de disposer du pouvoir de décision. La culpabilité amène donc un sentiment de contrôle sur les événements. La face cachée de la culpabilité nous protège du sentiment d'impuissance. Il vaut mieux se sentir coupable qu'impuissant. Les jeux de « j'aurais dû ou j'aurais pu agir différemment ». Et tout ceci ne serait jamais arrivé. Veut dire dans le fond, j'avais le pouvoir de changer les événements et je ne l'ai pas fait. La culpabilité ne va pas sans la conviction, même inconsciente, d'avoir le contrôle. Être le témoin impuissant d'un drame, par exemple, d'un accident de voiture, ne provoque pas de culpabilité. Nous pouvons ressentir de la tristesse ou de la colère, voire du dégoût par rapport à ce qui se passe, mais pas de culpabilité. Et c'est bien parce qu'on pense avoir un pouvoir sur ces choses que l'on peut ressentir cette culpabilité. Une personne qui se fait agresser peut se sentir coupable de cette agression et dire, par exemple, si c'est le cas, je pense à quelqu'un dans ma clientèle, je m'en veux de m'être habillée comme ça. Si je ne l'avais pas fait, rien de tout ceci serait arrivé. Et du coup, le monde devient prévisible et la sensation d'avoir le contrôle se renforce. J'aurais pu empêcher ça si... j'avais fait ça, et je n'ai pas l'ombre d'un doute là-dessus. De la même façon, si on refuse toute responsabilité en se positionnant en victime d'un système, alors la culpabilité ne peut pas être ressentie non plus. C'est le cas pour certaines personnes qui commettent des actes incroyables, effroyables, et qui disent ensuite « bon, enfin, j'avais pas le choix, j'ai juste suivi des ordres ». En se tenant seul responsable de certains faits, on oublie deux points essentiels. D'abord, la loi des probabilités qui s'applique quand on a des échanges et des interactions avec le vivant. Et cette réalité qui est, nous n'avons pas la maîtrise sur le monde. Et tu vois, j'aime beaucoup la démonstration faite par Yves-Alexandre Talman dans son livre. Et voici ce qu'il nous dit. Si je shoote dans un ballon, je peux, grâce aux lois de la physique, prédire sans le moindre doute où et quand le ballon va s'arrêter. Si par contre je donne le même coup de pied dans un chien qui dort, il est impossible de prévoir avec certitude ce qui va advenir. Va-t-il grogner? Va-t-il me mordre? Partir en courant? Alors j'aurai bien des conséquences à mon acte, mais personne ne va pouvoir prévoir quelle sera vraiment la conséquence. Puisque la conséquence dépend
du chien.
Tout à fait. Quand on reste persuadé qu'en agissant différemment, on aurait pu éviter la stratégie, alors cette idée rassure. et rend le monde beaucoup plus sûr et surtout plus prévisible. Et ce qu'on oublie, c'est que nous ne sommes pas responsables des choix d'autrui. Et par conséquent, le choix que fait un agresseur est bien de la responsabilité personnelle de ce dernier. C'est comme le chien. C'est lui qui choisit de mordre ou de fuir. Sa décision dépendra de lui et de lui seul. Je peux très bien donner un coup de pied au chien, ce qui n'est pas très mal, hein, je te l'accorde, hein, et ne pas être mordu. Et ce n'est pas parce que j'ai donné le coup de pied au chien qu'il m'a mordu, mais c'est parce qu'il a décidé de réagir comme ça au coup de pied qu'il vient de recevoir. Alors maintenant, je dois avouer que de lui donner un coup de pied a augmenté la probabilité de la morsure, mais j'aurais pu tout aussi bien ne pas être mordu. Et j'aurais même pu être mordu sans donner ce coup de pied en passant juste à côté. Tu vois, tous les scénarios existent. Renoncer à une illusion de toute puissance ne revient pas à être résigné ou impuissant. Cela revient à accepter ses propres limites et à accepter que notre influence sur le monde est de nature probabiliste et non certaine. Notre comportement peut accroître certaines probabilités. Je te donne un exemple en arrière. Par exemple, en respectant le pacte de fidélité que j'ai avec mon conjoint, en le respectant et en veillant sur son bien-être, j'augmente les chances que mon couple va durer. En même temps, cette relation est soumise à des facteurs qui m'échappent complètement, puisque mon conjoint est, tout autant que moi, libre de ses choix. Donc mon conjoint peut tout à coup décider de me quitter, même si mon comportement à son égard est irréprochable. On l'entend d'ailleurs régulièrement dans notre clientèle. Je n'ai rien à reprocher à mon mari, j'en suis désolée, mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre et je pense que je vais le quitter. Alors le mari n'a pas commis de faute, hein. Même sa femme le dit. Mais il peut tout à fait se sentir coupable de cette séparation.
Alors tu disais que la culpabilité saine est un acquis fondamental dans le développement de l'enfant. Elle lui permet en effet d'intégrer les règles sociales et d'ajuster son comportement pour bien vivre avec la tribu, en quelque sorte. Et quel est le rôle des parents ou des éducateurs dans le développement de cette culpabilité dite morbide?
Alors, c'est vrai que la culpabilité se construit chez l'enfant sous l'influence des adultes et des parents qui s'occupent de lui. Comme l'enfant est capable d'empathie, parce que la culpabilité et l'empathie, c'est vraiment quelque chose qui est très lié, une découle de l'autre. C'est parce que l'enfant est capable d'empathie, c'est-à-dire qu'il est capable de percevoir ce que les adultes ressentent, et puis comme il peut ressentir de la peine à les voir souffrir, il peut adapter son comportement pour répondre aux attentes. Et c'est parce que nous avons la faculté de percevoir la souffrance de l'autre, et que cette souffrance nous affecte, que nous allons éviter de leur causer du tort. Si nous sommes conscients d'avoir causé un préjudice, alors nous allons ressentir la culpabilité, ce qui est vraiment très sain. Ça permet de réajuster nos comportements. Mais parfois, le mécanisme se dérègle, et une des causes est de faire croire à l'enfant qu'il est la cause des émotions de ses parents. Et on l'a vu, comme nous l'avons vu un peu plus tôt, le déclencheur n'est pas la cause. Adopter la croyance que nous sommes la cause d'états internes chez les autres renforce notre idée de toute puissance. C'est subtil, mais c'est là que se passe la bascule. Un exemple. La bêtise commise par l'enfant, c'est bien le déclencheur de l'émotion. C'est il commet une bêtise, ça va déclencher en moi de la colère. Mais la cause de ma colère, c'est bien un besoin qui n'est pas comblé. Si le parent interprète la bêtise comme un acte de désobéissance, alors le besoin de reconnaissance de l'autorité du parent ne sera pas satisfait. Et c'est ça qui va le mettre en colère. La bêtise est vécue comme dangereuse, alors c'est le besoin de sécurité qui est insatisfait et qui sera la cause de la colère. Si la bêtise est vécue comme un acte d'autonomisation de l'enfant, alors les parents peuvent vivre cette bêtise comme une chose saine, pas grave et naturelle et même une autre chose. Dire à un enfant des phrases comme « tu m'énerves »,« tu fais de la peine à ta sœur », »,« tu m'obliges à me mettre en colère » peut renforcer cette culpabilité morbide et la sensation de toute puissance chez l'enfant. Bien sûr, il faut qu'il ait reçu une grande dose de ce genre d'injonction. Et c'est en cela que la culpabilisation est très utilisée par les parents comme outil d'éducation, parce qu'il faut dire qu'elle est efficace. Et souvent, ils ne font que reproduire bien inconsciemment ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Comment faire obéir un enfant? Comment faire obéir un enfant? Alors tout d'abord, on le fait tout ça. On lui explique, puis on le gronde. Ensuite, on le menace. On finit par le punir. Et puis quand on n'en peut plus, on termine par le culpabiliser. Une façon d'arrêter cette transmission inconsciente, c'est d'abord de prendre conscience de ce comportement et d'arriver à se déconditionner de ses mauvaises habitudes. L'EFT est pour ça un outil vraiment intéressant pour se libérer de ses conditionnements et de mettre en place de nouveaux comportements. Il faudra prendre conscience de nos schémas manipulateurs, et on en a tous, et ce qui fait le poison, c'est la dose, et faire preuve de persévérance. Comme tu peux l'imaginer, tout ça se fait pendant le jour. Et c'est d'autant plus important que les personnes ayant été confrontées avec la culpabilité comme outil d'éducation sont la proie rêvée des manipulateurs. La culpabilité se cache dans des phrases qui nous semblent complètement banales, tellement nous les avons entendues. Le plus souvent, on ne se rend même pas compte qu'on essaie de culpabiliser quelqu'un ou qu'on est soi-même manipulé et culpabilisé. Alors, c'est des phrases de nombreux parents. On les a entendus. C'est quand les enfants viennent vous dire « Oui, tu sais, tous les autres parents ont acheté un vélo, et moi j'en ai pas. » Et tu vois, ça montre que l'enfant déjà a bien compris la puissance de la culpabilisation. Alors, à cet enfant, on peut lui dire « Exact, peut-être que les autres parents ont fait ce choix, ils ont acheté un vélo, c'est vrai. Mais en ce qui me concerne, je préfère ne pas te l'acheter. » Parce que je te trouve un peu petit pour en faire tout seul et je préfère attendre un peu. Et voilà, et je pense que c'est une bonne chose. Et puis dire à l'enfant pourquoi on fait ce choix. Comme ça, ça met du sens. Et l'enfant peut, même s'il est frustré et donc peut-être en colère, lui comprendre ce qui se passe.
Et il n'installe pas l'habitude de manipuler ses parents pour obtenir ce qu'il veut.
Il essaie, mais il voit que ça marche pas, donc rapidement il peut arrêter.
Voilà, au moins il y a un contre-exemple où ça n'a pas marché. C'est une bonne chose.
J'essaie parce que, en fait, il va essayer parce qu'à l'école il rencontre ce comportement. Ses copains font ça avec lui. Lui, il use de ça avec ses copains et ça marche. Donc, les professeurs, sans s'en rendre compte, peuvent manipuler des classes pour que les enfants se tiennent tranquilles. Mmh. Donc lui il continue. Mais à la maison, hop, il s'aperçoit que zut alors, ici ça marche pas.
Voilà, mais il aura testé.
Il aura testé.
Alors, peux-tu nous parler du lien entre la culpabilité et le perfectionnisme?
Alors ça, c'est vraiment très intéressant, Maria. La culpabilité et le perfectionnisme, en général, ils s'aiment bien, ces deux-là. Et la bonne nouvelle, c'est que le perfectionnisme peut être traité comme la culpabilité morbide. Et pour ça, les deux axes à renforcer en EFT, ou dans d'autres techniques, sont 1. Renoncer à la toute-puissance. 2. Accepter notre imperfection. On pourrait dire aussi accepter notre vulnérabilité et renoncer à tout vouloir contrôler. Le perfectionniste est un éternel insatisfait. Ça fait partie de la population les plus malheureuses qui soient. Ils sont toujours insatisfaits, ayant comme croyance qu'il ne fait jamais assez bien. Alors il produit une grande quantité d'efforts et d'énergie pour atteindre le niveau d'excellence qui s'est lui-même fixé. Et tu connais la loi des 80-20.
Oui.
C'est le principe dit de Pareto, aussi appelé principe des 80-20 ou la loi des 80-20. C'est le nom donné à un phénomène empirique constaté dans certains domaines et qui dit qu'environ 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Et bien, alors que 20% de l'énergie investie suffirait à atteindre 80% du résultat, le perfectionniste, lui, investit les 80% restants pour seulement 20% supplémentaires. Et comme le perfectionniste juge qu'il ne fait jamais assez bien, il se rend coupable en permanence, et cette culpabilité est angoissante, donc il redouble d'efforts, et ça boucle. En répétant trop souvent aux enfants qu'ils peuvent mieux faire, on peut leur imprimer ce message, qui risque après de les poursuivre dans leur vie d'adulte. Et c'est le message « Sois parfait ». C'est un message contraignant qui est traité et étudié en analyse transactionnelle. Et de mémoire, on l'a vu dans différentes conférences, dans des congrès précédents.
Oui, tout à fait, les messages contraignants.
C'est ça. Et il y a un message qui est le « Sois parfait ». Et le perfectionnisme et la culpabilité peuvent se renforcer l'une l'autre. Se sentant coupable de ne pas faire assez bien, et je dis bien être assez bien, qui souligne donc un manque d'estime de soi, mais ça nous a enverrait trop loin de développer ça, on devient perfectionniste. Mais en étant perfectionniste, on ne fait jamais assez bien, ce qui appelle à son tour le sentiment de culpabilité.
Mmh. Effectivement, une boucle infernale à couper avec l'EST.
C'est infernal.
Et peux-tu nous parler de la différence entre la culpabilité et la honte? Parce que j'ai l'impression que les deux sont confondus parfois.
Parfois les deux sont confondus, c'est normal parce qu'elles ont des similitudes, mais elles ont des points différents importants. Alors j'aimerais bien vous en parler, parce que c'est vrai que cette notion est importante, mais faire la distinction entre les deux nous amènerait un peu trop loin. Je crois qu'on n'a plus le temps, et c'est pourquoi je m'en suis doutée quand j'ai écrit cette conférence, c'est pourquoi j'ai plutôt choisi d'aborder cette question dans le bonus. J'ai détaillé la différence entre les deux sentiments, et puis apporté des outils pour pouvoir s'en libérer, et déjà les reconnaître, parce que c'est important.
D'accord. Alors, disons juste qu'effectivement, elles vont souvent de pair.
Elles vont de pair, elles se ressemblent. Mmh. C'est pas les mêmes, mais elles se ressemblent.
Mmh. Et revenons-en à la culpabilité, qui est notre centre d'intérêt dans cette conférence. Concrètement, comment peut-on faire pour se libérer de la culpabilité excessive? On est bien d'accord, la culpabilité saine, la façon de s'en débarrasser, c'est de réparer, voire de présenter des excuses. Mais la culpabilité excessive, je crois que tu as trouvé des pistes.
Alors j'ai trouvé des pistes. Ces pistes, je les ai prises du livre avec laquelle j'ai d'ailleurs préparé cette conférence. Le livre d'Yves Alexandre Talman, Au diable de la culpabilité. Puis j'ai ajouté ma propre expérience et la pratique de l'EFT. Et le processus que je vais vous présenter, il est également valable pour une culpabilité saine, mais qui s'incruste. On peut voir ça aussi. À la base, effectivement, il y a une faute, et cette culpabilité est saine, mais elle a tendance à rester, à s'incruster, et à ne jamais partir.
Parce qu'on a réparé la faute, par exemple, mais on se dit, ah, c'est peut-être pas assez.
Oui, voilà, c'est pas assez.
Elle m'a dit avoir accepté mes excuses, mais peut-être que c'est pas vrai.
C'est ça.
Elle me ment.
La culpabilité colle un peu. Mm. Une culpabilité morbide, qui prend, là, pour le coup, vraiment trop de place, et ce processus peut même servir les personnes qui ne ressentent jamais de culpabilité, ce qui est, comme on l'a vu, un énorme problème également. Alors aussi, c'est en quatre étapes, je vais vous expliquer et parcourir les quatre étapes et l'utilisation de ces étapes avec l'EFT. La première étape, c'est établir la conscience et le verbaliser. On ne peut changer que ce dont on a conscience, et la première étape sera de reconnaître et d'accepter ce sentiment quand il apparaît. C'est pas toujours évident, les gens ne s'aperçoivent pas, ils vont même vous dire, mais je culpabilise pas du tout, hein. Et quand vous les écoutez, c'est vraiment que ça, c'est un tas de culpabilité. Mais la personne n'en a pas conscience. Première étape, établir la conscience là-dessus. Une fois que ce sentiment est identifié, on peut enfin le nommer et le verbaliser. Et cette démarche consiste à plonger au cœur du ressenti, plutôt que de l'éviter, et comme ça, on va pouvoir le traverser. La première ronde du EFT va servir à cette verbalisation, et ça peut être, alors je vais te donner des exemples de débuts de phrases que l'on peut tapoter. Mm-hmm. Même si je me juge coupable de telle et telle chose, même si j'ai la sensation d'avoir commis une faute en faisant ceci ou cela, même si j'ai l'impression de ne pas être assez bien, même si je pense et ressens que c'est de ma faute si ceci est arrivé. Pensez à une chose qui vous a fait ressentir de la culpabilité et écoutez votre dialogue intérieur. Vous aurez alors vos propres phrases. Ou bien discutez avec une amie et puis elle relèvera pour vous les phrases que vous dites sans même vous en rendre compte. Mm-hmm. Et qui s'y vient d'une culpabilité.
Ça peut être aussi une utilisation fréquente de phrases comme « j'aurais dû » ou « j'aurais pas dû ».«
J'aurais dû, j'aurais pas dû »
si seulement.
Ouais. Une des grandes clés, c'est « si j'avais pas fait ça, c'est évident que la conséquence ne serait pas là. Mm-hmm. Si j'avais pas fait ça, alors rien ne serait arrivé. »
Oui, c'est le lien que tu as fait tout à l'heure, que tu as mis en évidence tout à l'heure avec la toute-puissance.
C'est ça.
Et la deuxième étape ?
La deuxième étape, c'est accepter ses limites, accepter l'insécurité naturelle du monde et des relations, et renoncer à sa toute-puissance. Nous avons un pouvoir d'action, ça c'est indéniable, mais nous ne sommes pas tout-puissants. Alors ça, on le sait hein, avec sa tête, hein. On dit bien, je ne suis pas parfait, je ne suis pas tout-puissant, ça nous paraît tellement évident avec notre mental. Mais allons voir plus émotionnellement ce qui se passe. Nous décidons de nos choix et de nos actes, mais le résultat ne nous appartient pas. Lâcher prise signifie se mettre dans la confiance et lâcher la peur qui nous pousse à vouloir tout contrôler. Observez-vous quand vous commencez à vouloir renforcer le contrôle. C'est des pistes. Renforcer sa capacité à faire face à l'insécurité et accepter ses propres limites. Faire de son mieux, c'est juste ce dont on a besoin. Faire de son mieux, point. Accepter ses propres limites, c'est accepter la personne que l'on est aujourd'hui et réduire l'écart entre qui je rêve d'être et qui je suis ou qui je crois être aujourd'hui. Je ne suis pas la femme que je rêve d'être et j'accepte cette réalité. Ce n'est pas oublier mes rêves. Mes rêves sont une direction, mais je ne le suis pas aujourd'hui. Je n'ai pas encore atteint mon objectif, mais je l'accepte et je me sens bien avec ça. L'acceptation de nos limites est un véritable remède au perfectionnisme. Ceci revient également à accepter notre part d'humanité. Nous sommes incarnés. Nous avons une part d'humanité en nous qui a des failles, des faiblesses, et je crois que un de nos travaux essentiels est d'accepter notre part d'humanité. En EFT, nous pouvons formuler la phrase de rappel comme ça. Même si je ne suis pas encore parvenue à tel et tel résultat, ou je ne sais quoi, même si je ne suis pas encore parvenue à, j'accepte mes limites, et je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Même si je voulais aider mon voisin, et je ne le pouvais pas, j'accepte mes limites et je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Ça peut être très frustrant et très culpabilisant de vouloir aider quelqu'un et de ne pas y parvenir. Et là, la culpabilité peut apparaître. Et en fait, je voulais l'aider, je n'ai pas pu le faire, j'accepte mes limites et je m'accepte tel que je suis. Même si tout n'est pas parfait dans ce congrès virtuel EFT, j'accepte mes limites. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Mais ça, c'était une plaisanterie, Maria.
Je ne sais pas du tout d'où te vient l'idée de cet exemple.
On continue.
La troisième étape, s'il te plaît.
La troisième étape, ce n'est pas parfait, mais on s'est régalé. C'est déjà, on fait de son mieux et tout est parfait.
Point.
N'est-ce pas, Maria? La troisième étape, c'est prendre ses responsabilités et rejeter celles des autres. Cette étape est vraiment intéressante et très, très, très libératrice. En renonçant à ma toute puissance et à mon pouvoir sur les autres, je redonne à l'autre sa liberté et sa capacité d'assumer sa propre responsabilité. Choisir sa vie en fonction de soi et ne pas prendre la responsabilité des réactions des autres est non seulement très reposant, mais également, il enlève toute la culpabilité. Je vais le répéter ici parce que c'est vraiment important. Nous ne sommes pas responsables du bien-être des autres. Nous pouvons juste y participer. Écrivons ça en gros sur notre écran mental. Si dans une situation, le libre choix d'une autre personne impliquée, alors il a de bonnes chances que votre culpabilité soit morbide. Si vous ressentez la culpabilité dans une situation où le libre choix d'une autre personne est en jeu, il est fort probable que ce soit la culpabilité morbide, de toute façon vous n'allez pas faire de faute. Donc, par exemple, vous dites à votre enfant de rouler moins vite avec son scooter. Vous lui dites, c'est votre rôle, vous le mettez en garde, etc. Puis il ne le fait pas. Et il a un accident. Il tombe, parce qu'il va trop vite. Alors, quelle est votre faute en tant que parent? Certains peuvent se reprocher de ne pas l'avoir dit assez souvent, alors que ça fait 10 000 fois qu'ils leur disent, hein. Ils vont croire qu'ils ne l'ont pas dit encore assez souvent. Ils vont croire qu'ils le lui ont mal expliqué. Alors là, on voit bien, Maria, que le libre arbitre de l'enfant est impliqué. C'est un fantasme de toute puissance que de penser que la personne aurait pu éviter l'accident et ce n'était pas en son pouvoir. En EFT, il est possible de construire des phrases pour remettre tout ça à sa place. Même si je m'en veux de ne pas avoir répété assez. Parce que si je l'avais fait, rien de tout ceci serait arrivé. Je m'aime et je m'accepte complètement. Même si je ne corresponds pas aux attentes de mon père, de ma mère, de ma famille, je ne prends pas la responsabilité de leur réaction. Et je m'aime et je m'accepte complètement. Même si mon comportement ne plaît pas à ma famille, je leur rends leur propre responsabilité quant à ce qu'ils ressentent, pensent, disent, et je m'aime, je m'accepte complètement. Là, je pense, tu vois, au repas de Noël auquel on n'a pas forcément envie d'aller, et nous, on n'a plus envie d'intégrer cette règle comme quoi c'est une loi, il faut absolument aller à ce repas.
Mais oui, mais c'est tellement important pour ta mère.
Eh oui, c'est ça.
Ça va lui briser le cœur si tu n'y vas pas.
Oui, je vais enfreindre une règle familiale très importante. Je vais sortir du clan, je risque de ne plus être aimée.
Oui.
Donc voilà, même si ce comportement ne plaît pas à ma mère, je lui rends sa propre responsabilité quant à ce qu'elle ressent, pense et peut dire. Je fais le choix de ne pas aller à ce repas et je m'aime et je m'accepte complètement. Et la quatrième étape est une étape qui est surtout faite pour la culpabilité saine, pour la culpabilité objective. Et c'est l'étape qui clôt le processus de libération, parce qu'il reste à réparer le préjudice si c'est possible, et comme ça on peut tourner la page. Donc c'est pour ça que c'est surtout aux auteurs de faute, quelqu'un qui a réellement causé un préjudice à autrui. Alors, quand ça arrive, nous pouvons poser un acte de réparation, si c'est possible. Ou au moins présenter des excuses aux personnes touchées par les fautes. On peut aussi poser des actes de réparation symboliques. Nous pouvons aussi régler toutes les affaires en cours. Alors, quel type d'affaires, tu pourrais bien me demander? Eh bien, c'est rendre les affaires qui ne nous appartiennent pas, par exemple. L'histoire des livres de tout à l'heure. Présenter des excuses à quelqu'un que nous avons blessé, et on le sait, et on lui a pas présenté ses excuses, et on y pense encore. Ça peut être remercier quelqu'un qui le mérite. Ça peut être pardonner des choses qui me restent encore sur l'estomac. Donc, regardons toutes ces choses non réglées. Ça peut faire naître chez nous un sentiment de regret et de culpabilité si elles ne sont pas closes. Et voilà l'EFT, comment on peut nous aider à passer à l'action pour clore tous ces dossiers. Alors voilà, j'ai pensé à ça. Même si je me sens encore freinée pour présenter mes excuses à mon patron ou je ne sais qui, je m'aime, je m'accepte. Même si je n'arrive pas encore à pardonner à mon voisin, je m'aime et je m'accepte. Même si j'attache encore beaucoup trop d'importance à tel fait, et je m'en veux de ça, je m'aime et je m'accepte complètement. Parce qu'il y a la médaille d'or de la culpabilité, qui est se sentir coupable de se sentir coupable.
Alors là, tu vas loin. Ça, c'est pour la deuxième semaine, je crois.
Je t'assure, Maria. Ce n'est pas rare.
Effectivement. C'est là, on sent bien toute la dimension culpabilité morbide. Alors, est-ce que tu veux bien qu'on développe ensemble, avec une démonstration, l'étape numéro 3, c'est-à-dire rendre à César et faire le tri des responsabilités,
oui,
des uns et des autres.
Tout à fait. Tu veux qu'on fasse un tapping guidé, c'est ça?
Oui.
Ok.
Je pense, par exemple, toute cette... toute cette culpabilité que tu nous as exposée, ça m'a fait penser à un client que j'ai vu, une cliente que j'ai vue récemment, qui, son fils doit passer le bac,
ouais,
bientôt, et il est mal préparé.
Il
n'est pas prêt.
D'accord.
Et sa maman se sent extrêmement responsable et coupable de cette situation.
D'accord.
Donc nous avons déjà travaillé ça, mais peut-être qu'on peut retapoter quelques phrases.
Tout à fait.
Pour ce type de cas, bien sûr, ce n'est qu'un exemple.
Oui.
Donc pour vous qui nous écoutez aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas exactement dans cette situation-là, mais je pense que nous pouvons tous trouver une situation avec des enfants ou avec d'autres proches où nous avons peur pour eux. Là, cette mère a énormément peur de l'échec pour,
je me sens responsable
pour le compte de son fils.
Complètement de ce que pense, ressent,
voilà.
Et choisit la personne.
Si lui, il échoue, ça va être terrible pour moi.
C'est ma faute à moi. Alors que, bien sûr, je n'ai pas le contrôle de ça.
D'accord.
Donc voilà ce qu'on pourrait tapoter, Maria. Je vais guider le tapis. Le point karaté. Même si je ne crois pas... Attends. Même si je crois ne pas avoir rempli mon rôle de parent convenablement.
Même si je crois ne pas avoir rempli mon rôle de parent convenablement.
Je m'aime et je m'accepte complètement.
Je m'aime et je m'accepte complètement.
Même si je n'ai pas toujours été un parent parfait.
Même si je n'ai pas toujours été un parent parfait.
Je m'aime et je m'accepte.
Je m'aime et je m'accepte.
Exactement comme je suis.
Exactement comme je suis.
Même si j'aurais dû engueuler mon fils plus souvent.
Même si j'aurais dû engueuler mon fils plus souvent.
Parce que ça aurait marché.
Parce que ça aurait certainement marché.
Je m'accepte. Complètement et totalement.
Je m'accepte. Complètement et totalement.
Le poing sur la tête. Je voudrais aller passer l'examen à sa place.
Je voudrais aller passer l'examen à sa place.
C'est possible, ça s'est déjà vu.
Oui, oui.
Certains parents, ils ont pensé à ça, aller passer l'examen.
Oui, je me souviens en France l'année dernière, il y a même eu un cas avec une maman qui s'est fait prendre.
Elle s'est fait prendre.
Donc, on a aussi... ne le faites pas, c'est pas la bonne solution. On va en chercher d'autres.
Elle aurait dû tapoter. Celui à traverser les filles. Je voudrais aller passer l'examen à sa place.
Ah, si seulement je pouvais passer l'examen à sa place.
Coin des sourcils. Je suis vraiment un mauvais parent.
Je suis vraiment un mauvais parent.
Je n'ai pas été assez présent, le point coin de l'œil. Je n'ai pas été assez présent à ses côtés.
Je n'ai pas été assez présent à ses côtés.
Le point sous l'œil. J'aurais dû le rendre plus autonome.
J'aurais dû le rendre plus autonome.
Sous le nez. Tout ça, c'est bien de ma faute.
Tout ça, c'est bien de ma faute.
Si on l'entend, je suis responsable de sa réussite.
Je suis responsable de sa réussite.
T'as vécu. Je lui ai trop mis la pression.
Ah, je lui ai trop mis la pression.
Sous le sein. Non, je ne lui ai pas assez mis la pression.
Ah non, je ne lui ai pas assez mis la pression.
Sous le bras. S'il rate, ça va vraiment être de ma faute.
S'il rate son examen, ça va vraiment être de ma faute.
Le point karaté. Même si j'oublie que mon fils peut faire ses propres choix.
Même si j'ai tendance à oublier que mon fils peut prendre ses propres décisions, faire ses propres choix. Mm-hmm.
Je m'aime, je m'accepte complètement.
Je m'aime et je m'accepte complètement.
Même si je me crois tout puissante.
Même si je me crois toute puissante.
Que j'ai la responsabilité de sa réussite.
Et que j'ai la responsabilité de sa réussite.
Je m'accepte complètement et profondément.
Je m'accepte complètement et profondément.
Même si je crois qu'il est en mon pouvoir de le contrôler.
Même si je crois que c'est dans mon pouvoir de le contrôler.
Afin qu'il travaille plus.
Afin qu'il travaille plus.
Qu'il réalise mieux.
Qu'il réalise mieux.
Et puis qu'il réussisse.
Et qu'il réussisse.
Je m'accepte complètement et totalement.
Je m'accepte complètement et totalement.
Le point sur la tête. Je peux réussir à sa place.
Je peux réussir à sa place.
Racine de sourcil. Je peux l'obliger à réussir.
Je peux l'obliger à réussir.
Coin de l'œil. Je dois l'obliger à réussir.
Je dois l'obliger à réussir.
C'est mon rôle de bon parent.
C'est ce que ferait un bon parent.
Sous l'œil. Je sais mieux que lui ce qui est bon pour lui.
Je sais mieux que lui ce qui est bon pour lui.
Sous le nez. Envisager son échec me fait vraiment peur.
Envisager son échec me fait vraiment peur.
Sur le menton. Mais la réalité, c'est que je ne suis pas responsable.
Mais la réalité, c'est que je ne suis pas responsable.
De tout ce qu'il pense.
De tout ce qu'il pense.
Et des choix qu'il fait.
Et des choix qu'il fait.
Clavicule. Il a le libre arbitre.
Il a le libre arbitre.
Tout comme moi.
Tout comme moi.
Sous le sein. Je peux juste être présent à ses côtés.
Je peux juste être présente à ses côtés.
L'aider.
L'aider.
S'il me le demande.
Si il me le demande.
Sous le bras. Il a un cerveau.
Il a un cerveau.
Il sait très bien s'en servir.
Il sait très bien s'en servir.
Il a la capacité.
Il a la capacité.
et je lâche prise.
Je lâche prise.
On va faire une dernière ronde. Tout ça, ce sont bien sûr que des exemples et que des suppositions de ce qu'on pourrait avoir en tête. Même si j'ai peur pour lui.
Même si j'ai peur pour lui.
Je m'accepte complètement et totalement.
Je m'accepte totalement et complètement.
Même si je n'ai pas le contrôle de cette situation.
Même si je n'ai pas le contrôle de cette situation.
Je m'aime et je m'accepte.
Je m'aime et je m'accepte.
Totalement, complètement.
Totalement, complètement.
Même si je mets tellement d'importance à la réussite de cet examen.
Même si je mets tellement d'importance à la réussite à cet examen.
Je m'aime et je m'accepte complètement.
Je m'aime et je m'accepte complètement.
On va tapoter le poing sur la tête. Et puis je vais faire toute une ronde avec des « et si ». J'aime bien utiliser ça.
Mm-hmm.
Et si j'arrêtais de m'inquiéter autant pour lui.
Et si j'arrêtais de m'inquiéter autant pour lui.
Racine de sourcil. Et si je lui faisais confiance.
Et si je lui faisais confiance.
Coin de l'œil. Et si je me détendais, même si j'ai peur.
Et si je pouvais me détendre, même si j'ai peur.
Sous l'œil. Et si je le laissais tranquille avec mes inquiétudes.
Et si je le laissais tranquille avec mes inquiétudes.
Sous le nez. Et si j'arrêtais de le harceler comme ça.
Et si j'arrêtais de le harceler comme ça.
Parce que je cherche juste à calmer ma peur en faisant ça.
C'est ma façon de tenter de calmer ma peur.
Sur le menton, et si j'acceptais mes propres limites.
Et si j'acceptais mes propres limites.
Clavicule. Et si j'acceptais ses propres limites.
Et si j'acceptais ses propres limites.
Si j'acceptais qu'il ne se comporte pas exactement comme je veux.
Et si j'acceptais qu'il ne se comporte pas exactement comme je veux.
Le poing sous le sein. Et si, dans le fond, tout était bien comme ça.
Et si, dans le fond, tout était bien comme ça.
Si je l'acceptais juste pour aujourd'hui.
Si je pouvais l'accepter juste pour aujourd'hui.
Et le poing sous le bras. Et si je lâchais toutes mes critiques.
Et si je lâchais toutes mes critiques.
Celles que j'ai vis-à-vis de moi.
Celles que j'ai vis-à-vis de moi.
Et celles que j'ai vis-à-vis de lui.
Et celles que j'ai vis-à-vis de lui.
Voilà, Maria. On peut respirer. Avec un client, je reposerai des questions. Comment vous vous sentez? Quand on tapote ça, est-ce qu'il y a des verbalisations, il y a des commissions qui vous viennent à l'esprit? Qu'est-ce que vous vous dites de vous? Quelles sont vos croyances? Etc. Et ça serait un vrai dialogue et on reprendrait à chaque fois les mots du client.
Oui. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je tiens à souligner que nous venons d'utiliser certaines approches de la thérapie provocatrice, notamment dans le fait de faire une caricature en fait du problème. Mais on voit bien, j'espère que c'est évident. Ça permet vraiment de mettre le problème en exergue et de mettre en évidence ce comportement exagéré.
Et souvent, on croit même faire de la provocation et c'est tout à fait ce que pense la personne.
Oui, tout à fait. Bien sûr, quand on est dans cette boucle infernale, cette spirale infernale de la culpabilité, ce sont ce genre de raisonnements qui nous tournent dans la tête.
Oui.
Et on peut se sentir coupable de lui mettre la pression et on peut se sentir coupable en même temps, enfin dans la fraction de seconde qui suit, de ne pas mettre à cette pression.
C'est ça.
Donc, d'où ce paradoxe. Eh bien, merci Noël d'avoir partagé toutes ces pistes. Nous allons aller dans le chat.
Écoute, merci Maria pour cette conférence que tu m'as donné l'occasion de faire. C'est ce que je peux dire pour ce soir, il est l'heure, ça y est. Il y a encore beaucoup à dire sur ce sujet. Passionnant qu'est la culpabilité, je ne savais pas que ça allait autant me passionner quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sentiment qui est tellement présent dans nos vies. Il y a, dans les entreprises, on entend beaucoup de personnes qui sont en prise avec des gens qui sont dits manipulateurs. Vraiment, c'est un sentiment. On a été éduqué avec, on continue l'éducation avec, on utilise de la culpabilité avec nos amis sans même s'en apercevoir. Ça m'a passionné. Et dans le bonus, j'aborde d'autres pistes un peu plus en détail. J'apporte des outils concrets, notamment ici des thérapies cognitives et de la stratégie relationnelle émotive, qu'on appelle aussi la SRE d'Albert Ellis, qui est docteur en psychologie et psychothérapeute. Je donne des titres de livres qui m'ont vraiment aidé à approfondir la question. Voilà, j'ai préparé quelque chose que je trouve vraiment très sympa, c'est sous la forme d'un PDF. Je crois qu'il y a un audio aussi. Voilà, ça complète très bien cette conférence.
Voilà, donc le bonus que vous trouverez dans le pack, dans les différents packs du congrès virtuel EFT 2014.
2014, merci Maria.
Nous allons retrouver les auditeurs dans le chat.
Avec plaisir.
Et on répond à vos questions dans quelques instants.
À tout de suite.
Le chat est ouvert. Posez vos questions. Mettez vos remarques, vos commentaires.
Je vois que ça défile à toute allure. Alors, je suis en train de les lire toutes.
Je vais prendre la relève pour que... Et merci à Valérie aussi, qui est là, la nina de la souris.
Oui, merci Valérie, merci beaucoup. Je vais commencer par la réponse de Caroline. Comment être certaine de faire les bonnes rondes et de dire les bonnes phrases? C'est vraiment une question récurrente chez les gens qui connaissent pas l'EFT ou qui débutent en EFT. C'est la question de ces phrases qu'on dit, les phrases de rappel. Et ces phrases, elles sont assez simples à trouver. Si vous êtes avec quelqu'un et que c'est vous qui guidez une séance EFT, il vous faut simplement écouter la personne, prendre des notes de ce qu'elle dit et vous reprenez ses propres mots. Si vous travaillez seul en EFT, il vous faut écouter votre dialogue intérieur. Comment vous vous parlez? Qu'est-ce que vous vous dites? Dans le cadre de la culpabilité, en général, c'est notre critique qui vient nous rappeler une règle qu'on aurait transgressée. Par exemple, c'est le cas de la mère qui se dit « Je ne me suis pas assez bien occupée de mon fils, je ne me suis pas assez bien occupée de mon fils, il va passer le bac, il n'est pas prêt et c'est de ma faute. » Ça, c'est une sensation qu'on a. On ne se parle pas avec des mots dans sa tête, on se parle avec des phrases, des images et des sensations. Donc, la meilleure façon, c'est d'écrire. Le fait d'être obligé de mettre sur un papier avec un stylo et un papier, ce que l'on pense nous oblige à le formuler, à le verbaliser. Et ensuite, là, vous avez les rondes que vous pouvez faire avec ces phrases que vous avez notées sur ce papier. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair, mais c'est une question qui nous est souvent posée. Comment faites-vous pour faire les phrases? En fait, on écoute. On fait juste ça. On écoute et quand on reçoit des mails, on stabilote dans le mail ce que nous disent les personnes. Alors, quand on a plongé dans la culpabilité par ses parents toute l'enfance, comment la stopper? Ça, c'est ce que je disais dans la conférence. On intègre le dialogue extérieur, on l'intériorise, on le fait sien. Et donc, si vos parents vous ont culpabilisé, ils vous ont dit des phrases que maintenant, tout seul, vous vous répétez tout seul dans votre tête. Il suffit d'en prendre conscience. Une fois que vous en avez pris conscience, vous pouvez faire des rondes de EFT sur toutes ces critiques que vous faites à vous-même. J'aurais dû, j'aurais pas dû, c'est de ma faute. La culpabilité, c'est vraiment une question de faute qu'il faut aller chercher. En quoi vous pensez avoir commis une faute? Et puis, vous pouvez faire des rondes EFT et vous ressentirez un soulagement vis-à-vis de ça. En tout cas, ce que vous avez entendu dans l'enfance, et s'il est bien intégré, vous continuez à vous le répéter toute votre vie. Prenez-en conscience, c'est à côté dessus, et ça s'appelle déprogrammer, et puis après, vous vous reprogrammerez des choses que vous avez envie de vous dire régulièrement. Quand la culpabilité devient une obsession ou un TOC, même processus? Oui, même processus, faut en prendre conscience, le verbaliser, tapoter dessus, prendre bien conscience qu'on ne commet aucune faute quand on n'en commet aucune. C'est juste un fantasme, comme j'ai expliqué dans la conférence, un fantasme de toute puissance et un fantasme d'avoir un contrôle sur les choses. On a aussi ce grand fantasme de devoir être parfait pour pouvoir être aimé ou être digne d'amour. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à faire aussi de l'EFT sur votre côté vulnérable, votre côté je ne suis pas parfait, j'ai pas fait assez bien. C'est pas commettre une faute que de ne pas faire assez bien.
on fait pas assez bien, c'est tout. On se met en colère, bon, d'accord, c'est peut-être pas génial, mais voilà, on s'est mis en colère et tout va bien comme ça.
On peut toujours faire de son mieux.
On fait de son mieux.
Et on peut pas plus.
Et voilà. Juste pour aujourd'hui, on peut pas plus. On a fait de son mieux, ben on a fait de son mieux et ça a donné ça. Et je m'accepte tel que je suis. Excusez-moi. Alors,
j'ai vu une question
oui.
de Thierry. Faut-il d'abord soulager la culpabilité et ensuite traiter le trauma qui peut en être l'origine, ou est-ce que c'est l'inverse?
Ah, je n'ai pas assez de précision pour répondre. Faut-il...
Je cherche. Doit-on privilégier le travail sur la culpabilité en premier et ensuite sur la cause qui a créé ce trauma, ou l'inverse?
C'est pas simple de répondre à cette question, parce que j'ai l'impression, quand j'entends cette question, j'aurais tendance à répondre, il faut faire les deux en même temps. Et il faut bien choisir. Alors ça va dépendre du client, de sa demande, de son état émotionnel, au moment où il arrive. Moi, je peux commencer par déjà résumer un peu cette conférence en lui disant, vous ressentez de la culpabilité, or vous n'avez commis aucune faute. Et je lui explique comment ça marche, et déjà ça peut être pour lui quelque chose qui le soulage énormément. Et ensuite, aller traiter tous les mécanismes qui lui font ressentir de la culpabilité régulièrement et constamment, et son dialogue intérieur, et de quoi s'accuse-t-il, de quoi se juge-t-il. Ressentir de la culpabilité, c'est se juger coupable. On ne peut ressentir de la culpabilité que si on se juge soi-même coupable de quelque chose. C'est pas quelqu'un qui va nous faire ressentir de la culpabilité. La culpabilité, on se la crée tout seul. Donc, on va aller chercher les mécanismes qui font que cette personne se juge coupable. Alors, il y a bien sûr des racines dans le passé, et on va aller les démonter au fur et à mesure qu'elles se présentent à la tête du client.
Oui, bien sûr, ça dépend de ce qui se passe. Si le trauma est très lourd, on ne va pas l'attaquer de front.
On ne l'attaque pas de front, on va d'abord travailler dans le présent. Les culpabilités qu'il ressent aujourd'hui dans le présent et dans cette journée-ci, et la culpabilité qui s'est déclenchée hier, et petit à petit, ça va nous faire écho et ça va lui faire penser à des choses qu'il a vécues dans son enfance ou plus loin dans le passé, et on va les chercher dans le passé. Mais on peut commencer par travailler dans le présent.
Oui.
J'ai complètement lâché le chat, je sais pas du tout ce qui s'est raconté.
Vous pouvez m'aider.
Ça va, parce que voilà, je suis concentrée sur ce que je dis pour répondre et du coup je ne lis pas.
Eh ben, il vaut mieux. Tu fais de ton mieux, j'espère.
J'ai fait de mon mieux, c'est ça.
Alors, Véro, Axel promène une culpabilité depuis... Ah, ça a sauté. Je promène une culpabilité depuis longtemps avec la façon dont je me suis comportée avec mon fils, et je me sens coupable de son manque de confiance et ses échecs aujourd'hui. J'ai peur de traiter ce problème car à chaque fois je m'effondre.
Oui, c'est ça. Je dirais si quand on sent que quand on va aborder un problème, on s'effondre, c'est douloureux. Moi, je conseille de se faire accompagner, parce que c'est pas une partie de plaisir que d'aller farfouiller dans ce qui nous rend coupable. C'est déjà très douloureux en soi de ressentir la culpabilité. On n'y va pas seul. On y va difficilement seul. Donc, vous pouvez vous faire accompagner pour aller discuter de ça avec quelqu'un qui aura les compétences pour le faire, c'est-à-dire de la gentillesse, de l'empathie, qui comprendra ce mécanisme de la culpabilité, et du coup, vous n'aurez pas un miroir qui va vous renvoyer un jugement négatif. Vous avez fait de votre mieux, élever les enfants, c'est ce qu'il y a certainement de plus difficile, et c'est l'endroit où il est le plus facile de se culpabiliser. Parce qu'on a l'image de la famille Ingalls. Je me rappelle avoir fait une séance à quelqu'un, et où, à un moment donné, j'étais rentrée un peu dans la provoque, comme ça, et on a tapoté, même si ma famille n'est pas la famille Ingalls, je m'aime et je m'accepte. Et on s'aperçoit qu'on a des fantasmes de famille, où la famille, le papa et la maman doivent être très aimants, toujours en permanence avec les enfants et tout ça, et la réalité de la vie est bien autre. Et c'est accepter ses faiblesses, sa vulnérabilité, ce qu'on n'a pas pu faire, n'a pas pu être fait, on va utiliser la méthode du point d'un ami et point. Mmh. On n'a pas pu faire ce qu'on a... Et on arrête de se critiquer en permanence et à se juger sévèrement parce qu'on n'a pas pu le faire et je m'aime et je m'accepte. C'est une grande clé. Je m'aime et je m'accepte.
Oui. Voilà le pseudo des arts. Je ne comprends pas lorsque vous dites que les autres ne peuvent nous rendre coupables. Par exemple, si j'avorte, je me sens bien, mais les autres me montrent comme coupable.
Oui. Les autres vont, selon leur propre schéma, leurs propres règles à eux.
Ou pas, hein. Certaines personnes.
Certaines personnes.
Bien sûr, c'est pas une obligation.
Certaines personnes vont penser que c'est une faute de faire ça. Donc, elles jugent votre acte comme étant un acte qui est fautif. Mais vous, à l'intérieur de vous-même, si vous ne jugez pas cet acte comme étant une faute, vous ne ressentirez pas de culpabilité. Sauf si vous vous mettez à croire ce que vous disent les gens à l'extérieur de vous, et à ce moment-là, vous allez intérioriser leurs règles, et du coup, vous jugerez que vous avez transgressé une règle. Mais... Voilà, j'espère que c'est clair. C'est une règle intériorisée à laquelle on c'est une règle qu'on a intériorisée et qu'on transgresse, ce qui fait qu'on ressent de la culpabilité. Si votre règle, si ça fait pas partie de votre règle à vous, vous ne ressentez pas de culpabilité. Il y a des gens, ils maquillent un peu leur déclaration fiscale et ils ressentent beaucoup de culpabilité et de peur. Et puis d'autres, ils s'en sentent fiers et c'est un sport dans la famille. Et à ce moment-là, ils ne ressentent aucune culpabilité. C'est en ça qu'on la déclenche à l'intérieur de soi. C'est un jugement que l'on porte sur soi-même.
D'accord, c'est un vaste sujet. Effectivement, je vois le pseudo Sophro qui parle de... Je pense que ça rejoint ce qu'on appelle le syndrome du gisant. Je me sens coupable depuis tout petit. Je me souviens que lorsque j'avais... 6 ans seulement, je me posais la question, pourquoi c'est moi qui suis venue au monde et pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre qui est venu à ma place?
Alors, il y a des culpabilités comme ça qui sont vraiment irraisonnées. Je crois beaucoup au pouvoir guérissant des constellations familiales, par exemple, de tout le travail qu'on peut faire en psychogénéalogie, où on peut peut-être avoir des choses... qui ne nous appartiennent, elles nous appartiennent plus qu'on les a, ça c'est sûr, mais enfin qui nous collent un peu et on n'arrive pas à s'en débarrasser. Il y a d'autres techniques que l'EFT. On peut aussi tapoter un EFT, stimuler les points à un EFT en disant, même si je porte en moi une mémoire qui ne m'appartient pas, je m'aime et je m'accepte, et puis tapoter ce genre de phrase, même si je me demande depuis toujours pourquoi je suis là. Et c'est pas quelqu'un d'autre à ma place, je m'aime et je m'accepte, même si je ressens ceci ou cela, je m'aime et je m'accepte, etc. Donc, ça peut être un travail en profondeur à faire.
Alors, une question de Lunan. Ne doit-on pas adopter des phrases, la première d'expression pure, et puis veiller à s'orienter vers des choses positives, de plus en plus au fil des ronds?
Au fil des ronds, de faire de plus en plus de positif, c'est ça?
Déjà, Lunan, il ne faut pas montrer du doigt. Il n'y a pas d'obligation en EFT, c'est une plaisanterie, bien
la
sûr.
La première expression pure, puis veiller à s'orienter vers des phrases positives. Oui, 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 on peut alterner. Et si, quand on tapote le et si je pouvais commencer à lâcher cette culpabilité maintenant, et si je pouvais m'ouvrir à la possibilité de me sentir bien dans ma peau.
Ça, c'est une sorte de phrase positive.
C'est une sorte d'ouverture vers le positif.
Mais on ne va pas toujours terminer par du positif.
Moi, je ne termine pas toujours par du positif. En tout cas, si on fait du positif trop tôt, on s'aperçoit qu'on va faire émerger chez le client des résistances. Il y a des « oui mais » qui arrivent. Et ces « oui mais », s'ils ne sont pas entendus, prennent de l'ampleur et ça met le client très en colère. Et ce n'est pas le but. Mais ça peut faire émerger voilà, des conflits, des paradoxes intérieurs. La personne, elle se sent coupable et en même temps, elle ne se sent pas coupable. Elle se sent coupable d'un certain point de vue, mais d'un autre côté, elle sait bien qu'elle a fait de son mieux. Et du coup, quand on renforce en tapotant du positif trop tôt, ça va faire apparaître le critique intérieur qui va dire « mais non, c'est pas vrai, et c'est du matériel pour travailler, mais il faut continuer à tapoter ».
Alors, j'ai du mal à suivre tout dans le chat aussi en même temps, mais j'ai l'impression qu'il y a il y a le championnat mondial de la culpabilité qui se lance, je vois Plume, qui postule pour la médaille d'or.
Ah, elle culpabilise de se sentir coupable.
Alors, si vous voulez gagner à cette course-là, surtout ne vous tapotez pas, parce que là, vous risquez de culpabiliser moins et ça sera difficile de gagner la médaille d'or de la culpabilité.
J'en ai rencontré certains à mon cabinet qui étaient des médailles
candidats.
D'or.
Ouais.
Des médailles d'or de la
culpabilité. Ouais, je connais des candidats aussi, ouais. Alors, oui, Maggie aussi nous parle du syndrome de Gisant, le fait d'être oui. Née après un enfant mort.
Je connais bien ce syndrome,
Et avec l'EFT, bon, ça c'est un autre chapitre qu'on abordera dans d'autres conférences, mais on peut, je ne vais pas dire remonter le temps, mais ça revient un peu à ça. En tout cas, on peut traiter en EFT des traumas qui viennent de très loin, selon vos croyances, qu'on peut remonter jusqu'où vous voulez.
On peut effacer des mémoires avec l'EFT. Moi qui ai beaucoup travaillé avec Louis Gervais, J'ai plus de 600 heures à mon actif avec elle et on tapote des mémoires. Même si je porte la mémoire en moi de ceci ou cela, je m'accepte. Et c'est quelque chose qui fonctionne très bien et on peut sentir comme un poids qui s'en va. Même si je porte la mémoire, même si je porte cette mémoire ancienne de deuil, je m'accepte. Pour les syndromes du gisant, c'est quelque chose qui est assez efficace. C'est un syndrome que je connais assez bien puisque j'en suis moi-même. Donc, j'ai lu un livre sur le sujet et je me suis à peu près guérie de ces symptômes-là.
Mm-hmm. Alors, apparemment, nous avons un petit problème dans le chat qui a décidé de se mettre en maintenance.
Le chat a sauté.
Oui, mais on va continuer parce qu'on a déjà relevé pas mal de questions. Quand la culpabilité devient carrément une obsession ou un toc.
Les obsessions et les tocs, en EFT en tout cas, il faut faire preuve de beaucoup de persévérance, tapoter et faire des rondes EFT tous les jours, plusieurs fois par jour. J'ai quelques personnes comme ça dans ma clientèle et je leur donne des phrases spécifiques à eux, on discute et je relève dans leur discours ce qui peut les aider. Et au départ, ce que je peux faire, c'est leur faire tapoter pour le coup des choses positives et les aider à construire en eux de la ressource pour pouvoir se détendre. Ce sont des gens qui ont des tocs et qui sont obsessionnels, sont extrêmement tendus. Je préconise également de réinvestir le corps, étant donné que je peux constater qu'ils ont des sensations de tension, mais ils sont assez déconnectés de leur corps. Ça peut être des choses comme des étirements, de la marche à pied. Quand on marche, on peut tapoter juste les doigts. Les points sur les doigts sont des points accessibles. Et pendant la marche, c'est quelque chose qui peut être qui soulage beaucoup et qui va détendre. Je crois que c'est Jean-Michel Guéret qui expliquait ça lors de la première conférence. Tapoter, stimuler les points d'acupuncture permettent au système parasympathique de s'activer. Et ce système parasympathique, c'est le système qui permet de nous mettre en état de repos quand on est stressé. Et donc, c'est pour ça qu'on peut bâiller quand on fait de l'EFT et qu'on peut ressentir déjà, juste par le fait mécanique de tapoter ses points, un effet de relâchement. Et puis, pour ce qui est au niveau du cerveau, le fait de stimuler ses points d'acupuncture permet à une zone du cerveau qui s'appelle l'amygdale de ne plus être en état d'alerte et donc de ne plus être dans cette énergie de lutte ou de fuite comme si on était agressé en permanence. Ça, c'est des obsessions et des tocs, c'est quelque chose qui marche assez bien. Beaucoup de tapping, à toutes occasions, on est devant la télé, on peut faire du tapping sur les doigts. On marche dans la rue, on peut faire du tapping sur les doigts.
Oui,
c'est curieux de dire comme ça. On est dans la rue, on peut faire du tapping. On est dans la rue, on peut stimuler les points sur le corps ou sur les doigts. Et c'est quelque chose qui est important. Beaucoup, beaucoup de...
Oui, ça va diminuer le niveau de stress général et ça peut diminuer petit à petit la culpabilité.
Pour la fête des mères, culpabilité de ne pas avoir envie de faire un repas. Alors,
fête des mères, nouvel an,
et donc, fin d'année. Là, ce qui est intéressant dans le comment cette phrase est formulée, c'est la culpabilité, elle est ressentie par le fait de ne pas avoir envie de faire le repas. Donc, vous devriez avoir envie. Et la faute, c'est pas de ne pas faire le repas. La faute que vous jugez faire, c'est de ne pas avoir envie. En fait, vous devriez avoir envie. Et donc, comme vous n'avez pas envie, vous êtes en train de commettre une faute. Et si vous acceptiez de ne pas avoir envie ? J'accepte de ne pas avoir... J'accepte de ressentir de ne pas avoir envie de faire ce repas pour la fête des mères. Et c'est bien normal de ne pas en avoir envie parce que je suis fatiguée, parce que j'ai une semaine harassante. Si vous n'en avez pas envie, vous avez vos bonnes raisons. Et du coup, je m'accepte avec ces raisons-là et ce ressenti de ne pas avoir envie de le faire. Et je vais quand même faire ce repas parce que, en même temps, j'ai envie de faire plaisir à ma mère en préparant ce repas. Et du coup, je peux être bien dans ma peau en ayant ce paradoxe en moi, envie de ne pas avoir envie de faire le repas et en même temps avoir envie de faire plaisir à ma mère.
Alors, puisque tu parles de la mère, justement, comment faire avec une mère très culpabilisante ? Je ne sais plus qui a posé la question.
Comment faire quand on a une mère très culpabilisante ?
Oui.
On peut avoir son patron aussi très culpabilisant. Ça, c'est, on appelle ça les manipulateurs dans les entreprises.
Et pas que dans les entreprises. Les manipulateurs sont partout, parmi nous.
Les manipulateurs sont parmi nous. C'est un excellent livre. Les manipulateurs sont parmi nous. Elle s'appelle Isabelle Nazaraga. C'est un excellent livre sur la culpabilité dans les mains des manipulateurs. Donc, comment faire quand quelqu'un est très manipulateur ? C'est d'autant plus compliqué quand c'est la mère, c'est-à-dire quand on a entendu ce discours depuis que l'on est né, c'est-à-dire depuis très longtemps. Donc, toujours, quand on sent en soi une pointe de culpabilité, c'est se poser la question, est-ce que j'ai vraiment commis une faute ? Est-ce que j'ai vraiment commis une faute en n'ayant pas envie de faire ceci ou cela ? J'ai parfaitement le droit d'avoir envie de ne pas avoir envie. C'est un droit, je ne transgresse aucune faute. Tout dépend des armes de manipulation qu'elle emploie et des propos culpabilisants qu'elle emploie. Et c'est avec ces termes que vous avez entendus qu'on va pouvoir travailler en EFT autour de la culpabilité. Notez ce qu'elle vous dit qui vous touche. Et puis, vous pourrez aller voir... ou faire vous des rondes de FT seul dessus, ou aller voir quelqu'un qui vous aidera à établir les rondes de FT. Mais déjà, vous disiez ce que votre mère a l'habitude de vous dire, et puis vous vous connectez à votre ressenti, et vous tapotez en disant, même si je ressens ça, quand je dis cette phrase, je m'accepte et je m'aime profondément. Je vais juste répondre à Diavagou.
Oui,
je crois, est là depuis 2011 à suivre ses congrès.
Depuis le Gabon.
Depuis le Gabon, si c'est bien lui, un grand coucou particulier. Et il nous dit, lorsqu'on reçoit quelqu'un pour une séance EFT, doit-on l'appeler client, patient ou malade ? Alors, moi, je ne suis pas une professionnelle de la santé mentale, je suis coach, donc je reçois des clients. Notre ami Laurent Hersant tout à l'heure, qui est psychologue, lui, il reçoit des patients. Et quant au terme de malade, à aucun moment je crois que je reçois des malades ou qu'ils ont des maladies. Voilà, je déconseille. Si quelqu'un est malade quand il a la grippe, par exemple, mais quand il a un problème de culpabilité, il n'a pas une maladie. Il a juste une difficulté avec un sentiment et des repères sur soi-même. Voilà, je vois d'autres questions, je pourrais répondre pendant des heures. Et malheureusement, il va falloir que je lâche prise et que je laisse ma place.
Eh bien, tu as déjà fait de ton mieux. Merci beaucoup.
Oui. Merci, Maria, infiniment. J'étais ravie de donner une fois de plus cette conférence.
Merci à toi.
Et de partager un peu du peu que je sais sur la question.
Merci à tous.
Merci, à tout à l'heure.